service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Nous parlons aujourd'hui de l'impact de la maladie à virus Ebola sur les enfants. Vous savez, cette maladie a des conséquences néfastes sur les enfants dans les provinces touchées par cette épidémie, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon l'UNICEF, le nombre d'enfants orphelins ou non accompagnés augmente très rapidement et près de 1380 orphelins ont été enregistrés depuis l'apparition de cette maladie à l'est du Congo. Autre constat amer, pendant la même période, 2469 enfants ont été séparés de leurs parents ou tuteurs ou vivent seuls pendant que leurs parents sont sous surveillance médicale au niveau des centres de traitement d'Ebola ou des centres de transit. Voilà. Alors, que faire pour lutter contre les conséquences néfastes de l'épidémie d'Ebola sur les enfants? Comment réduire cet impact néfaste de la maladie, un virus Ebola sur les enfants? On en parle aujourd'hui avec M. Souleymane Diallo. Comme je l'ai dit, il est coordonnateur de la lutte contre Ebola à l'UNICEF. M. Souleymane Diallo, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, comment se présente la situation d'Ebola, les effets d'Ebola sur les enfants aujourd'hui au Nord Kivu et à Ituri?
Il faut noter d'abord que les enfants représentent 30% des cas d'Ebola aujourd'hui et ils sont fortement affectés de diverses manières. Soit affectés directement parce qu'ils sont infectés eux-mêmes, soit parce que leurs parents, le père ou la mère pourraient être infectés et donc ils deviennent des contacts à risque, à haut risque. À ce titre-là, ils sont tout petits, ils doivent être séparés de leurs parents, soit parce que les parents attendent un diagnostic d'une part, soit aussi sans traitement. Pendant cette période, vraiment, l'enfant présente toute sa fragilité. Donc, psychologiquement, il est séparé d'une mère. Il est en contact à risque. Il a affaire à des inconnus. Mmh. Et c'est pour cette raison, pour le protéger, pour s'occuper de lui de façon vraiment harmonieuse, que l'UNICEF, en accord avec les autres partenaires, a mis en place des crèches juste à proximité des centres de traitement et des centres de transit, ce qui permettait à l'enfant de ne pas être éloigné de ses parents, d'une part, de voir périodiquement, et pour la mère aussi, de voir périodiquement son enfant à distance, et que dans ces centres-là, on puisse s'occuper correctement de l'enfant jusqu'à ce que son statut soit connu.
Mais un enfant qui se retrouve entre les mains des inconnus, et ça pose problème, il risque de pleurer tout le temps, et l'enfant est mal à l'aise, ça c'est sûr.
Oui, c'est pour cette raison qu'on a fait appel surtout à des mamans, des mamans qui sont des survivantes d'Ebola, celles qui ont vécu, qui ont été déjà infectés, qui sont sortis guéris et qui ont quand même un certain statut vis-à-vis de ces enfants. Malgré cela, ils sont accompagnés par des psychologues et des agents psychosociaux qui essaient d'apporter le réconfort nécessaire à l'enfant.
Et vous avez dit 30% des cas dans des enfants qui sont infectés.
Oui. Parmi les infectés, on compte 30% qui sont des enfants, c'est-à-dire moins de 18 ans.
Voilà. Alors, vous dites que les enfants sont affectés de plusieurs manières. Quelles sont les autres manières les autres manières qui affectent les enfants?
Vous savez que la malnutrition est un élément chronique dans beaucoup de nos pays. La malnutrition, elle est là, elle est le lit de beaucoup d'affections. Un enfant qui est déjà malnutri présente un statut d'immunité ou de protection qui est assez affaibli, d'une part. Deuxièmement, lorsque d'autres maladies viennent se greffer dessus, cela pose des problèmes. Et vous savez aussi que dans notre environnement, d'autres maladies comme la rougeole, comme la polio, sont des maladies qui aussi fragilisent le statut de l'enfant. Donc chez l'enfant, la présence de maladies au virus Ebola présente beaucoup plus de difficultés. Si on pense aussi à son statut nutritionnel, si on pense à son statut éducatif, ça vient aggraver la situation de l'enfant qui est en pleine dans son processus de développement.
D'où il faut protéger l'enfant.
Il faut protéger l'enfant. Il faut centrer vraiment toute la riposte sur l'enfant, dans la mesure où il constitue vraiment le noyau de la famille, et c'est celui sur lequel toute l'attention pour être de la famille va être portée de plus en plus.
Voilà, donc, alors comment se présente la situation? Est-ce que on peut dire que c'est au Nord Kivu, c'est en Ituri, où il y a beaucoup plus de cas d'enfants qui sont affectés par cette maladie?
Il faut dire que de façon générale, comme j'ai dit, ça fait 30%. Donc, dans les deux provinces, vraiment, il n'y a pas une différence particulière entre les deux provinces à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'avec la mobilité du virus, comme on vient de le constater, Goma vient d'être touchée, on a quelques situations qui se tendent vers Bukavu. Et donc, la grande mobilité fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule région, une seule province qui puisse dire être effectivement à l'abri de ce virus.
Alors, comment ça se passe au niveau de ces crèches que l'UNICEF a installées à côté des centres de traitement?
Disons que la crèche, on essaie de l'avoir dès l'établissement du centre, immédiatement, parce qu'il faut que les premiers cas, lorsqu'une mère vient avec son enfant, elle puisse trouver les conditions nécessaires. On essaie de rassurer la mère d'abord, pour qu'elle accepte de se séparer de son enfant d'une part.
Ce qui n'est pas facile.
Ce qui n'est pas très facile. Mmh. Ça peut être douloureux, on peut le comprendre. Et c'est accompagner justement le fait que ce soit d'autres mamans qui soient là avec là, et dans la mesure du possible, le plus proche possible dans leur communauté, fait que vraiment il y a une acceptation qui est un peu plus grande. Et en mettant en relief l'intérêt supérieur de l'enfant, on est en mesure au moins de comprendre un petit peu comment la maman pourrait accepter telle situation. Mmh. Deuxièmement, il y a un appui qui est donné. Si l'enfant est au lait, on essaie de donner des substituts du lait maternel.
La maman ne sait plus l'allaiter.
Dans la mesure où il est prouvé que le risque de transmission par le lait maternel est assez élevé. Et une des mesures de prévention serait de mettre l'enfant sur le substitut du lait maternel en attendant que les choses ne se clarifient au sujet de sa mère.
Mmh. Voilà, et ces enfants passent la nuit là-bas, dans ces centres, dans ces crèches-là.
Ils sont
là en permanence.
On s'occupe d'eux 24 heures sur 24. Les équipes de survivantes, les équipes d'encadreuses qui sont là, les nurses, comme on les appelle, les encadreuses qui sont là, elles se relaient. C'est une équipe permanente qui est là. Pour un seul enfant, on peut avoir plusieurs mamans qui viennent de temps en temps, périodiquement, et qui s'occupent de l'enfant. Il mange là, il dort là, on s'occupe de lui. Et on essaie de créer un environnement de jeu pour lui. Il a son propre jeu.
On
lui place
des
jouets pour qu'il puisse vraiment se distraire un peu. Et ça fait partie vraiment de sa prise en charge psychologique.
Et la maman, de temps en temps, elle peut au loin se manifester pour que l'enfant soit
plusieurs
de plus
fois
en
plus
rassuré.
Par jour, autant que possible, plusieurs fois par jour, la maman adoptive prend l'enfant, l'approche de la mère, pour qu'elle voit son enfant, pour qu'elle puisse au moins comprendre dans quelle situation
se
trouve l'enfant.
Mais c'est pas les toucher, c'est pas l'embrasser. Ça.
Non, ce n'est pas possible. Mais le fait, c'est sûr que le fait de voir l'enfant, les sourires de l'enfant, les échanges qu'ils peuvent avoir d'un côté ou de l'autre, ça réconforte la mère, ça l'aide psychologiquement à être vraiment mieux aborder le traitement qu'elle suit. Et deuxièmement, pour l'enfant, ça rassure l'enfant.
Nous avons trois auditeurs en ligne. Baraka nous appelle de Beni. Serge Kingi est à Kindu et Sokora également. Se trouve à Kindu. Nous parlons de l'impact de la maladie à virus Ebola sur les enfants. Des questions et préoccupations, appelez, composez le 081-890-63-94.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Nous parlons aujourd'hui de l'impact de la maladie à virus Ebola chez les enfants au Nord Kivu et puis à Ituri. Baraka, vous êtes à Beni. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, aujourd'hui c'est Maki Barak, Patrick depuis Beni. Je pense que c'est un sujet très intéressant, surtout que nous sommes dans la zone où la maladie fait face. Alors, comme d'habitude, une maladie ne peut pas manquer d'avoir des impacts négatifs. Alors, surtout qu'on est en train de parler de l'impact sur ce qui concerne les enfants. Vous savez, ici à Beni, nous sommes en train de vivre. Les enfants sont les premières victimes de cette maladie, c'est du fait que les enfants n'étudient plus. Enfants dans des écoles, craignant que les enfants soient contaminés dans des écoles. Il y a d'autres parents qui carrément transfèrent les enfants à aller étudier ailleurs. Et vous voyez, lorsque l'enfant manque, l'enfant est hors de la présence de ses parents, ça constitue aussi quelques problèmes psychologiques pour l'enfant. Donc nous disons qu'il y a beaucoup de facteurs que nous ne pouvons pas souligner, mais je pense que j'ai une question à poser à l'invité. Maintenant, au niveau des Beni où nous sommes en train de vivre cette maladie, est-ce qu'il est possible, partant de ces impacts négatifs de la maladie pour les enfants. Est-ce qu'il est possible que les parents parviennent à transférer les enfants étudier ailleurs, ou soit on peut garder toujours les enfants sur place et que les enfants puissent étudier ici en ville, d'autres endroits où on peut bien encadrer ces enfants? Merci beaucoup, je dis, c'est Maki Baraka depuis Bébé.
Bien, merci. Serge King, vous êtes à Kindu, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité du jour.
Quelle est votre question?
Félicitations d'abord pour les efforts fournis par le docteur Mouyembe depuis Goma par rapport à la satisfaction des malades et des victimes de l'Ebola. Nous félicitons aussi l'invité au plateau là. Je voulais que l'invité puisse nous éclaircir aussi par rapport aux 30% des enfants infectés. Et j'aimerais qu'il puisse nous dire d'abord quels sont les signes cliniques qui peuvent se faire voir lorsqu'un enfant est en train de souffrir de cette maladie, d'autant plus que chez les adultes, il y a une différence, ce que j'ai observé. Et j'aimerais te dire à l'invité qui est au plateau là, pourquoi ne pas faire un peu d'erreur avec différentes provinces, tout ça, c'est de déployer, de financer quelques structures, en fait, de sensibiliser les gens pour lutter contre ces fléaux, ces pandémies qui est en train de ronger, de mettre la population en danger, et surtout nous, qui sommes dans des provinces très voisines d'autres provinces. J'aimerais que les invités puissent nous dire à quand la sensibilisation de cette maladie, et le pourcentage aussi des adultes face à cette maladie est de combien. J'aimerais aussi demander à Julie Daniel Kachama, est-ce que l'émission ça se passe près de chez vous, existe encore ou pas? Merci beaucoup.
Bien, merci Serge Kingi. La tranche existe toujours. Ça se passe près de chez vous. Si vous avez des choses à raconter, alors vous pouvez nous écrire à service@radiocrapi.net et nous allons vous programmer. Merci. Et Sokoa, vous êtes à Kindu aussi. Bonjour et quelle est votre question?
Ouais, merci beaucoup Monsieur Jeudi. Bonjour, bonjour aussi à l'invité. En tout cas, moi, je suis très content d'un pays comme le Congo, un pays responsable. Et je pense que j'avais attendu un jour donc, aux émissions de RFI. Il y a pas moins de 1900 personnes qui sont mortes en problème de virus Ebola. Je pense que vous êtes sûr de moi. Et jusque-là, un pays comme responsable, ça fait presque 5 ans que cette maladie existe toujours dans notre pays. Et il n'y a aucun effort qui s'est fait pour éliminer donc, cette maladie-là. Alors, moi, j'aimerais...
Sokoa, il y a des efforts qui se font en ce moment. On parle même aujourd'hui des molécules qui ont été trouvées pour le traitement d'Ebola. Voilà, avec le professeur Mouyembe, ça veut dire qu'il y a des efforts qui, quelque part, qui sont fournis.
Ces efforts sont à mono-mono, pas à rapidité.
D'accord. Et par rapport aux enfants, quelle est la question?
Bon. Par rapport aux enfants, la question, je voulais dire ceci. Est-ce que cette maladie de virus Ebola, ça ne peut pas faire dans l'étendue de notre territoire pour rester même au niveau de Kindu? Ça peut être, ça ne peut pas être contaminé donc par des enfants là. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Diallo.
Merci beaucoup. Merci au premier auditeur de Béni d'avoir soulevé le cas de l'éducation. Je pense que l'une des dispositions prises, effectivement, c'est de prendre en compte le système éducatif. L'éducation fait partie vraiment... On n'a pas besoin de fermer une école, dans la mesure où même lorsqu'il y a un cas qui est dépisté dans un environnement où un élève a fréquenté, on procède à la décontamination de l'école, on a fourni du matériel, des kits de lavage des mains, des kits de prévention pour permettre à ce que éviter vraiment une transmission interne au niveau de l'école.
Mais ce qui est vrai, l'année scolaire dernière, beaucoup d'enfants ne sont pas allés à l'école. Le programme était perturbé à Béni parce que les parents avaient peur. On ne peut pas envoyer nos enfants dans ces conditions. Ils peuvent, on ne sait pas, les autres enfants qui viennent à l'école, s'ils ont la maladie ou pas. Et certains avaient même transféré leurs enfants à Goma, à Kinshasa ou ailleurs.
Il est vrai qu'il y a eu peut-être un problème d'information, de communication qu'il fallait continuer à renforcer. Mmh. Sinon, les écoles, surtout dans les zones concernées, ont été dotées de thermomètres laser pour pouvoir prendre la température d'une part, le kit de lavage des mains. Et lorsqu'il y a eu des risques qui ont été là, les écoles ont été décontaminées. Les enseignants ont été formés pour dépister les signes de la maladie à virus Ebola. Et ils savent quelles dispositions prendre. Et plus que tout, l'enfant a droit à être informé. Même à l'école, il a droit à être informé. On doit lui transmettre le message de ce que c'est que cette maladie, comment elle se contracte, et comme, quelles dispositions on doit prendre. Et ça, on doit lui transmettre, pas avec le vocabulaire et le langage que nous avons en tant qu'adulte, mais dans le langage et le vocabulaire que lui comprend en tant qu'enfant. Donc des dispositions sont prises en matière préventive pour les enfants. On n'aura pas besoin de fermer des écoles si les dispositions normales sont prises. L'école peut continuer normalement. Et l'essentiel, c'est que vraiment les mesures préventives qui ont été mises en place soient respectées. Ça, c'est par rapport au premier auditeur. Le deuxième, par rapport aux structures, et je crois qu'il parlait un petit peu du...
Il a parlé aussi des 30%. Vous avez dit
voilà, les 30%
des enfants qui sont affectés. Est-ce que vous pouvez lui en dire un peu plus?
Je disais que quand on regarde les tranches d'âge, nous nous considérons enfants moins de 18 ans. Donc dans ce lot-là, il y a les tranches des jeunes filles adolescentes, des adolescents particulièrement, qui sont les plus concernés. Pour donner un peu plus de précision, quand on regarde un peu cette décomposition, on voit un petit peu que ceux qui sont les jeunes filles, particulièrement au niveau des filles, les femmes représentent 57%, il faut le préciser. Donc elles sont un peu plus touchées que les hommes d'une part, et les jeunes adolescentes en âge préscolaire sont aussi les plus touchées dans la couche des filles. Donc, quelque part, il y a une certaine différence, mais de façon structurelle, quand on regarde en termes de tranche d'âge, comme on dit, ce sont les enfants, parce qu'ils sont beaucoup plus en contact avec leur maman, avec leurs parents, parce que les événements sociaux, c'est beaucoup qui les touchent, ils n'ont pas les moyens de se défendre, parce qu'aussi, ils sont le lit de beaucoup d'autres affections, la rougeole, la malnutrition et beaucoup d'autres problèmes, ce qui fait qu'ils sont vraiment concernés par cette épidémie.
Malonga nous appelle de Bandundouville. Bon, il y a Sokoa qui
juste,
a dit qu'il y a
juste
le dernier auditeur.
Le dernier auditeur, quand il a posé le problème, je voudrais lui dire que dans la réponse qui est telle qu'elle est donnée, il y a trois zones. On a catégorisé en trois types de zones. Les zones où la maladie sévit effectivement, actuellement, ce qu'on appelle les hotspots. Il y a une deuxième zone qui vient autour, une sorte de deuxième ceinture qui vient après. Celles qui sont à risque, parce qu'elles sont voisines, parce qu'elles sont à proximité. Et les autres aussi qui peuvent être des zones actives. Et les troisièmes sont des zones qui sont un peu plus larges. Ça dépend aussi du nombre de cas et de la situation épidémiologique telle qu'elle se présente. Donc en fonction du temps que l'on met pour avoir des cas dans une zone, où on peut, il y a des interventions spécifiques à chacune de ces catégories. L'idée, c'est que ensemble, dans toutes les zones proches ou éloignées, des dispositions préventives soient prises, que l'on puisse pouvoir mettre en place des mesures de prévention, que ce soit la formation, la communication. Si ces dispositions sont prises et que les structures qui permettent de communiquer avec les populations sur les signes de la maladie, il faut diffuser l'information, bien communiquer pour que au premier signe, on a une réactivité qui soit bonne. Nous, on a vu que dans le cas particulièrement de Goma, le premier cas qui est arrivé, les dispositions avaient été prises auparavant, le personnel était formé, ils ont pu réagir rapidement, le cas a été circonscrit, tous les contacts qui étaient concernés par ce cas-là ont été identifiés, ils ont été vaccinés, donc les dispositions ont été prises, ce qui fait qu'on a eu un répit dans ce domaine.
Est-ce que les enfants qui sont les contacts doivent aussi être vaccinés?
Ils doivent être suivis, ils doivent être vaccinés. Mais on dit que ils sont concernés à partir de 6 mois. En dessous de 6 mois, on considère que leur immunité, leur système immunitaire n'est pas propice pour pouvoir prendre en compte ce vaccin pour le moment.
On va accueillir trois autres auditeurs. Nous parlons de l'impact de la maladie à virus Ebola sur les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les effets négatifs de cette maladie sur les enfants? Malonga est à Bandundouville. Dieu merci. Nous appelle des Bounia et Piero Pagna de Lubumbashi. Malonga, bonjour. Et rapidement, quelle est votre question?
Oui, bonjour. Je dis bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent. Bon, rapidement, comme vous dites, je dis seulement les enfants sur les enfants, hein. Bon, pour rendre impact vraiment, pour épargner les enfants à ce fléau vraiment qui met de la crainte aux adultes et aux parents, il faut bien sensibiliser les parents. Comme l'invité vient de dire là-bas, si les parents sont très bien vraiment éduqués et ils considèrent cette maladie telle qu'elle est, en tout cas, ils peuvent veiller aussi aux surveillances de leurs enfants. Alors, je demande ceci à l'invité. Les enfants sont les enfants. Bon, il y a un temps que les enfants disparaissent devant leurs parents. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Si les enfants déambulent, séjournent, il y a des jeux, hein? La pédagogie aussi nous autorise de laisser l'enfant jouer. Un enfant qui ne joue pas, il est malade. On n'est pas condamné. Quelle méthodologie ou quelle pratique que nous pouvons faire
pour épargner l'enfant à sa liberté. C'est ce que je veux dire aujourd'hui.
Merci. Dieu merci à Oudongou. Vous êtes à Bounia. Bonjour et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour Jody. Bonjour également à l'invité qui est sur place là aussi. Et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Alors, vous aviez dit, il n'y a pas beaucoup de temps, Malonga a déjà dit tout ce que je voudrais dire. Mais Jody, moi, je voulais juste faire une observation par rapport aux enfants et surtout nous de l'Est, en Ituri, actuellement avec les atrocités de Ndjougou. Vous irez dans d'autres villages, vous allez retrouver, il y a des enfants, il y a des parents qui n'acceptent pas jusqu'à aujourd'hui qu'il existe la maladie à virus Ebola. Alors, j'aimerais demander à l'invité aujourd'hui, comme l'année scolaire va débuter à bientôt ici, et que Malonga vient de dire, les enfants sont des enfants, qu'est-ce que les parents peuvent faire? Et avec ces atrocités, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour sensibiliser des coins, surtout en Ituri ici, aussi partout dans les pays, des coins, dans des villages où encore jusqu'à aujourd'hui, les parents n'ont pas encore accepté si le virus à Ebola existe. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, parce que la radio aussi sensibilise, comme vous sensibilisez à travers, bien sûr, cette émission au Capi Service, et il y a aussi des relais communautaires qui transmettent aussi des messages. Et qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de ça pour aussi sensibiliser des villages et des coins de la République démocratique du Congo par rapport à ces virus à Ebola? Merci beaucoup.
Merci, Dieu merci Oudongo de Bounia. Nous avons en ligne Pierrot Pagna, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Pierrot.
Bonjour, je dis, je suis trop emporté par le vif du sujet, comment on est en train de parler. Ce sont des choses qui nous font du bien quand il y a des appuis qui sortent de par-ci par-là. Parce que d'abord, l'épidémie à virus Ebola, c'est une maladie, c'est une épidémie qui est impitoyable, et nous sommes aussi obligés de l'être pour mettre fin à la propagation de cette maladie. Alors, quelques questions que je voulais poser à l'invité. Il a dit, c'est l'UNICEF ou c'est l'ONU qui a fait l'impact de l'Ebola sur les enfants? Je n'ai pas entendu. Si c'est l'UNICEF qui est en train de faire cette démarche.
Quelle démarche? Quelle démarche, Pierrot?
Donc, sur comment prendre en charge ces enfants-là qui sont en rupture des parents infectés par le virus.
Voilà, l'UNICEF a installé des crèches au niveau des centres de traitement où les enfants ils sont là-bas, ils logent là-bas, ils sont nourris. Et puis, ils peuvent de temps en temps voir leur maman de loin. La maman peut saluer l'enfant et ça rassure tous les deux.
Alors, c'est là que je viens de bien comprendre comment était l'intitulé du sujet. Alors, je voulais dire ceci. Si il y a eu la croissance de cas, de pourcentage de cas par rapport à d'autres flambées d'Ebola ou épisodes passés, nous savons par exemple que plus les mamans sont infectées, et comment est-ce qu'on peut prendre ces enfants qui ont vécu, et il y a d'autres qui étaient peut-être sous le lait maternel de leur maman et qui sont en rupture de leur maman, et directement ils sont pris et allés dans le crèche. Comment ces enfants sont pris en charge pendant qu'il fallait d'abord le tester et voir est-ce que s'ils ne sont pas aussi infectés? Comment est-ce qu'on est en train de prévenir cette maladie dans les crèches par ces programmes-là? C'est ça une première question que je voulais poser à l'invité. La deuxième question que je voulais poser à notre invité, quel est le rôle de l'UNICEF dans le crèche, alors que les statistiques que nous avons montrent que c'est, à part la rupture des parents, ces enfants-là auront besoin et aussi de la nutrition et de la santé mentale, aussi de l'éducation, parce que nous, les enfants, tels que nous disons, ce sont les héritiers de demain.
D'accord, alors, merci Pierrot. On a compris.
En train de lutter pour citer,
Merci, on a.
L'UNICEF procède à l'encadrement de ces victimes-là. celle qu'il a décelée. Alors, je voulais demander comment, quels sont d'autres partenaires qui sont en train d'appuyer ce crèche-là qui nous aide à protéger ces enfants-là, rupture des parents. Je vous remercie.
Merci bien, monsieur Souleymane.
Merci beaucoup. Je vais peut-être répondre à votre dernière question pour dire que l'UNICEF n'est pas seul. L'UNICEF développe un partenariat avec beaucoup d'institutions, beaucoup d'ONG, beaucoup de structures locales, des structures nationales, pour pouvoir en tout cas s'occuper de ces enfants. Donc l'aspect nutritionnel, comme je l'ai mentionné, est bien pris en compte. Des nutritionnistes formés, experts en nutrition, sont disponibles à la fois dans les centres de traitement, parce que la personne qui est sous traitement adulte ou enfant a besoin qu'on rééquilibre un peu de temps en temps son statut nutritionnel pour qu'on puisse lui donner une alimentation qui s'approprie à sa situation. Et dans le cas particulier des enfants, comme on a dit, le lit de la malnutrition peut être là, ils ont besoin de beaucoup plus d'attention. Donc cet aspect de la nutrition est bien pris en compte au niveau des enfants, que ce soit dans les centres de traitement s'ils sont déjà affectés, ou bien que ce soit dans les crèches s'ils attendent que l'on puisse avoir un statut pour eux-mêmes ou pour leur maman ou pour leurs parents. Donc cette dimension est vraiment bien prise en compte et elle a montré, et les résultats des traitements ont montré que ce suivi nutritionnel qui est fait pour la première fois dans cette épidémie, il faut dire qu'il y a certaines interventions dans les épidémies précédentes qui n'étaient pas prise en considération, mais qui est faite cette fois-ci à apporter un plus à la qualité des services. Donc par rapport aux crèches, pour leur dire que l'enfant va être séparé de sa mère, comme on l'a dit, au moment où la mère est infectée, il y a des risques qu'elle puisse transmettre Ebola par le lait maternel. Et pour éviter ce risque-là, on essaie au maximum, il y a du lait artificiel qui est disponible, un lait qui est approprié, que l'on met, que des nutritionnistes ont recommandé, que l'on met immédiatement à la disposition de l'enfant. Et l'enfant est encadré, comme on l'a dit aussi, par des mamans, par des gens qui ont été préparés, qui ont traversé cette épreuve, donc psychologiquement, qui savent ce que la maman de l'enfant peut ressentir, ce que l'enfant lui-même peut ressentir. Donc, quelque part, on essaie de créer un environnement qui n'est pas l'environnement idéal, mais un environnement quand même qui puisse permettre à l'enfant de s'épanouir.
Oui.
L'autre aspect qu'il faut considérer, si l'enfant n'est pas infecté, si après les tests on trouve que l'enfant ne court aucun risque, l'idéal aurait été de le ramener dans sa famille. Famille élargie, que ce soit un oncle,
mais les problèmes aussi, quand on ramène l'enfant dans la communauté, les gens ont peur.
Exactement.
L'enfant peut avoir ce qu'on appelle la stigmatisation. L'enfant peut être stigmatisé.
Exactement. Souvent, ces enfants subissent cet effet de stigmatisation, que ce soit dans la communauté ou dans les écoles. Même quand ils reviennent à l'école, on sait qu'ils ne sont plus, ils ne sont pas à risque. Mais on essaie vraiment de les mettre de côté.
Le fait qu'ils étaient isolés à un moment.
Ils étaient là, on considère qu'il faut les mettre à l'écart, les gens ne veulent pas. Certains enfants se plaignent, les autres ne veulent pas jouer avec eux. Donc psychologiquement, cette stigmatisation a un effet sur l'enfant. Donc des efforts sont faits par les psychologues, les agents psychosociaux qui sont de la communauté, qui sont formés, qui viennent à proximité pour essayer de lever, sensibiliser les autres pour que les enfants soient bien intégrés dans leur milieu, ou dans leur famille, ou dans les écoles, là où ils doivent aller.
Et quelle est la meilleure façon de les intégrer, la meilleure façon d'amener la communauté à les accepter de nouveau?
Il y a une expérience qui est en cours. Tous les guéris, les survivants qui viennent des centres de traitement, on les accompagne. On les accompagne dans la communauté, on va avec eux, sensibiliser, réunir la communauté, expliquer que la personne a traversé cet épisode de maladie, elle est guérie, elle n'est plus à risque. Et donc cet effort-là se poursuit aussi avec les psychologues, ce qui fait que la présence des psychologues cette fois-ci, des agents psychosociaux, des communicateurs, devient un élément déterminant. D'abord pour pouvoir connaître les signes, prévenir, pour que les gens, parce que la décision d'accepter d'aller dans un centre de traitement, la décision d'accepter d'être listé comme contact, de se faire vacciner, appartient à la personne et à la communauté, la famille et la communauté. Comment faire reconnaître ces signes? Comment faire accepter ces situations? Comment faire préparer les gens d'abord aussi à connaître le statut? Quand on fait un prélèvement chez quelqu'un, venir lui annoncer qu'il est positif à Ebola, ce n'est pas une épreuve qui peut être facile. Donc ça peut être un choc psychologique. Ça explique le rôle déterminant des communicateurs et des psychologues dans ces différentes phases. On accompagne l'enfant particulièrement depuis le début
jusqu'à sa sortie. Même après, à l'école, l'enfant peut faire l'objet de stigmatisation. S'il est orphelin, par exemple, qui va s'occuper de sa scolarité? S'il est orphelin, comment s'occuper de son suivi, le suivi de sa santé, son suivi nutritionnel?
Ouais.
Tous ces éléments sont des accompagnements. Ce n'est pas fait exclusivement par l'UNICEF, mais c'est fait quand même dans un partenariat, plusieurs partenaires conjuguent leurs efforts à la matière.
D'accord. Alors avant de répondre aux autres questions, on va accueillir trois auditeurs. Bindou Maombi nous appelle de Masisi, Dido Ilunga est à Lumbashi, et Glody Bouanganga à Bandunduville. Bindou Maombi, bonjour, vous êtes à Masisi. Quelle est votre question?
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à Tati, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Oui, avant de passer à la thématique du jour, je vais vous présenter une petite préoccupation, c'est très rapide. C'est par rapport à le fonctionnement de la radio Capi ici chez nous à Massissi. Vraiment, ça fonctionne dans un état qui n'est pas tout à fait bon, ça fonctionne sur un pays mère, ça émet cette guinée. Dans les avant-midi, dans les après-midi, ça n'a
rien. D'accord, Bindou, on a compris. Vos préoccupations seront transmises à l'équipe technique de Radio Okapi. Alors, revenons à nos sujets du jour. Par rapport aux enfants, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ebola et les enfants.
Oui, par rapport aux enfants, on sait bien que d'ici là, la scolaire des élèves sera vraiment disponible. On sait bien que les enfants iront à l'école sans toutefois être accompagnés par leurs parents. Et maintenant,
Bindou, vous êtes là? Voilà, désolé. On l'a perdu. Il parlait de la rentrée scolaire. On a compris quand même la préoccupation.
Par rapport à la scolarité, il y a eu de gros efforts, comme on a dit, en matière dans les écoles actuellement. Mmh. Et ensuite, puisque c'est les vacances actuellement, des efforts sont en cours pour préparer les écoles, les élèves, les enseignants, préparer les écoles à aborder la réouverture des classes. Donc, vraiment, cette période latente est mise à profit pour bien préparer une bonne intégration des enfants dans leurs écoles, renforcer les mesures de prévention, mettre en place un système qui permettrait vraiment de sécuriser l'environnement de l'enfant.
Dido Ilunga, vous êtes à Lubumbashi et Glody Bouanganga à Bandunduville. Dido, bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour monsieur Jody et bonjour à l'invité, c'est Dido Ilunga depuis Lubumbashi. En fait, c'est vraiment une bonne thématique par rapport à la maladie virus Ebola. Nous devons savoir que la santé publique, c'est une affaire de tout le monde. Voilà, avant de poser la question à l'invité, j'aimerais d'abord dire à l'auditoire qui nous écoute que tous, nous devons nous devons prendre en charge nos responsabilités, c'est-à-dire nous devons être des sensibilisateurs dans nos villes, nos communes, les milieux respectifs, là où nous vivons. Voilà pourquoi, qu'est-ce que moi j'ai fait d'abord? Au moment où je suis en train de vous parler, je suis sur terrain, en train de faire une sensibilisation porte à porte à Lubumbashi, d'où j'ai été dans différents quartiers.
Dido, c'est très bien, mais vous n'avez plus beaucoup de minutes, il vous reste quelques secondes. Quelle est la question que vous adressez à l'invité rapidement?
Oui, j'y arrive.
Il vous reste quelques secondes seulement.
Je voulais poser la question à l'invité.
Oui.
C'est par rapport aux enfants. D'ici là, c'est la rentrée scolaire. Voilà ce que je vais vous donner comme idée. Nous devons travailler en partenariat avec des différents responsables d'école afin de placer des bacs à eau pour laver les mains de tous les écoliers ou bien même les professeurs. Voilà ce qui pourra faire rassier qu'on puisse limiter les dégâts.
Merci.
C'est juste ça ma contribution.
Merci Dido. Glody Bouanganga, vous êtes à Bandunduville. Bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix. Oui, je voulais quand même dire ceci. Par rapport au problème de la santé des enfants, il faut d'abord sensibiliser d'abord le parent et les responsables de l'école. Parce que si l'élève quitte la maison, que son père le dit, voilà, quand tu pars à l'école, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, je crois que l'enfant va être convaincu et parfois il va exécuter. Et la seconde chose, j'ai voulu quand même poser certaines questions à notre invité. Lui, je sais bien qu'il peut donner quand même des solutions qui sont concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire nécessairement à ce stade? Parce que parfois nos petits de l'école primaire ou de la maternelle ne se contrôlent pas, parfois ils s'embrassent en désordre, ils se parlent, parfois
l'un parmi eux peut être infecté dans la maladie à virus Ebola. Parfois, il peut propager. Alors, quels sont les moyens de prévention qu'on peut dire à ce stade-là, enfin, nos petits ne puissent plus avoir de problèmes, parce que c'est vraiment un problème qui dérange notre environnement de la RDC. Et je vous remercie.
Bien. Docteur, monsieur Souleymane.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais dire qu'effectivement, la sensibilisation est l'affaire de tout le monde. L'affaire de tous, ça dépend des familles, les parents, les voisins, les médias. Tout le monde doit contribuer à cet effort de sensibilisation parce que Ebola touche à nos pratiques les plus profondes, c'est-à-dire l'enfant, ça touche au décès, ça touche au comportement que nous avons vis-à-vis de la maladie. Donc ça rentre vraiment dans notre essence et qu'il faut vraiment faire beaucoup d'efforts de sensibilisation pour tout le monde. Je dois aussi dire que travailler avec les responsables, on le fait déjà. On travaille avec tous les responsables locaux, dans les écoles, les bacs à glace, à eau dont vous parlez. C'est ce que je parle, le kit de lavage des mains, mettre de l'eau et des mesures d'hygiène, des latrines et comme ça dans les écoles. Ça fait partie des programmes, y compris même des programmes de développement. Mmh. Donc je pense que ces éléments-là ne seront pas oubliés. Les parents joueront un rôle clé dans la transmission de l'information. La sécurité restera un élément très important. Vous avez parlé à partir de Béni. C'est vrai que chaque fois qu'il y a des problèmes, on interrompt les interventions. Ça peut permettre au virus de se développer. Donc, ces
même
efforts sont
au niveau d'Ndjougou, en Ituri, quelqu'un dit que les parents ne croient pas que cette maladie existe.
Exactement.
Parce que cela n'expose pas davantage les enfants.
Si, ça expose tout le monde. Ça expose surtout les enfants à cet environnement. Ça montre l'ampleur du défi que nous avons pour pouvoir faire accepter la maladie, faire accepter le fait que malgré le fait que beaucoup meurent actuellement, il reste encore des gens qui ne sont pas convaincus de cela. Donc, nous avons des anthropologues, des sociologues, des gens qui travaillent un petit peu, comme on dit, c'est vraiment l'essence de la personne humaine, de notre culture et tout. Nous avons des anthropologues qui essaient de nous aider à comprendre. Nous avons même ce qu'on appelle des feedbacks communautaires. C'est-à-dire, lors des interventions, les commentaires que les gens font, les types d'interventions que l'on mène, ces informations sont remontées à toutes les structures, à différents niveaux de la hiérarchie, sont remontées pour qu'on puisse adresser de façon correcte, humaine, digne et culturellement acceptable les interventions de la riposte, y compris la reconnaissance de l'affection. Dans beaucoup de cas, ces éléments ont permis de corriger le tir. Il est vrai que nos interventions pouvaient ne pas être comprises et acceptées. Toutes les interventions de la riposte, d'ailleurs, pouvaient ne pas être comprises. Mais les efforts qui sont en cours aujourd'hui permettent de pouvoir le dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits. Mmh. Voilà, on avait la rougeole, on a eu d'autres problèmes. Pourquoi particulièrement Ebola cette fois-ci? Pourquoi cela?
Les gens sont sceptiques. Pas... Hein.
Les gens restaient sceptiques. Mais l'évidence est là, c'est que quand même, il y a eu des cas. Des pays voisins ont pris des dispositions pour essayer de pouvoir être prévenus de cela. Ce qui montre vraiment que ça existe et que continue, surtout, des enfants continuent à mourir. Donc nous devons prendre des dispositions pour éviter cette situation.
Surtout 30% d'enfants touchés, affectés, c'est beaucoup.
L'enfant, c'est l'avenir du pays. Mmh. Comme vous le dites, l'enfant, c'est l'essence de la vie pour nous tous. La continuité de la société. Donc on doit préparer vraiment ces enfants à avoir un environnement qui leur soit propice et favorable.
Et Malonga a dit tout à l'heure que les enfants sont des enfants. Ça veut dire que s'ils veulent jouer, aller jouer, on ne peut pas les empêcher d'aller jouer avec les autres enfants. Et il s'est dit que peut-être qu'il y a des risques quand les enfants vont côtoyer les autres à l'école, ils peuvent s'embrasser, jouer avec les autres.
Merci beaucoup, mais je pense que cela, c'est l'occasion de dire qu'il ne faut pas être alarmiste. C'est-à-dire que même si on parle de prévention, le fait que déjà on ait des kits de lavage des mains dans les écoles, le fait que l'on puisse pouvoir prendre les températures, le fait que les enseignants soient préparés au dépistage, ça ne doit pas créer un environnement de phobie ou bien de psychose au niveau de l'école pour pouvoir éviter que les enfants se retrouvent à l'école. Donc vraiment, toutes les dispositions sont prises pour que s'il y a un cas ou quelque chose qui se présente dès le début des signes, que ce soit reconnu, que ce soit géré, si c'est correctement géré, il n'y a pas de risque pour les autres.
Pierrot de Lumbashi pose la question de savoir, par rapport au lait maternel, est-ce que la maman qui est un enfant qui était sous allaitement, maintenant on doit couper, arrêter pendant un moment, interrompre, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le rôle de l'UNICEF au niveau des crèches par rapport à la santé mentale des enfants, tout ça?
Comme j'ai parlé, j'ai dit, on a des psychologues, on a des pédiatres, on a des qui prennent, donc on prend l'enfant vraiment dans sa,
qui sont là,
et des nutritionnistes qui prennent l'enfant dans sa globalité. Mmh. L'enfant n'est pas seulement l'élément biologique. Il faut tenir compte de son mental, il faut tenir compte de son social, il faut tenir compte de son biologique. Donc l'ensemble de ces facteurs-là sont pris en compte au niveau de la crèche. C'est vraiment l'innovation par rapport à cette riposte-là. Dans les précédentes, on n'avait pas cette structure. Donc quelque part, que ce soit ici ou dans d'autres pays où il y a eu Ebola, vraiment, l'innovation, c'est vraiment cette présence de proximité des crèches, la prise en charge nutritionnelle avec les pédiatres et les psychologues, fait qu'en sorte on a pris en cause la dimension de l'enfant dans cette riposte ici. Le lait maternel, il transmet, il a des risques de transmission, et c'est pour cette raison qu'on prend des dispositions. Mais c'est un risque qui est calculé. Quand on met l'enfant sur le lait artificiel, tout sévrage est difficile. Mm-hmm. Tout sévrage, surtout dans de telles situations brusques, est difficile. C'est pour ça qu'on a un accompagnement. Mais on ne va pas faire courir le risque à l'enfant quand on sait qu'on a une autre solution pour éviter vraiment d'être contaminé par le lait de sa mère. Si on a une autre solution, l'intérêt supérieur de l'enfant doit prédominer.
On va accueillir Jean-Bruno Kabamba de Kananga. Nous parlons de l'impact de la maladie à virus Ebola sur les enfants. Déjà, on nous dit que 30% d'enfants sont touchés, affectés par cette maladie au Nord-Kivu et à Ituri. Jean-Bruno, quelle est votre question? Vous êtes à Kananga. Bonjour.
Merci beaucoup. J'ai une question, mais avant de poser la question, souffrez que je commence par des observations. La première observation, je commence par féliciter le gouvernement national pour la mesure prise en but de lutter contre cette maladie, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Je dis grandement merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même si cela étant la deuxième observation, je demande au président de la République de bien vouloir renforcer la capacité des professionnels soignants qu'on peut envoyer ou affecté dans toutes les provinces dont cette maladie bat record, pour qu'ils puissent travailler avec la stratégie porte à porte. Ainsi, on va adoucir ou soit lutter contre cette pandémie, cette maladie qui bat record dans des provinces de souffrance. Et voici, pour atterrir ma question, quel est l'agent causal de cette maladie à virus Ebola? Merci beaucoup.
Bien, Joseph Mpiana, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, moi, merci beaucoup pour la parole. Moi, je crois que je voulais aussi poser la même question avec vous, parce qu'il vient de poser la même question. Je voulais d'abord connaître pour les deux cas qu'on a trouvés dans le sud Kivu. Ces cas-là provenaient des Ituri ou des Goma? Parce qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ces cas-là traversent jusqu'à Bukavu. Parce que ça fait 2-3 semaines, on ne donne plus le bilan du patient même d'Ebola qui était à Butembo, Ituri. On ne donne plus les statistiques, on ne parle plus de Goma. Or, quand je suivis le prof Muyembe, il disait une épidémie, il faut toujours combattre l'épidémie par devant et non pas être derrière. Alors, c'est comme ça qu'il avait planté son équipe à Goma. On avait compris que c'était pour stopper que la maladie ne quitte Goma et Ituri vers Goma. Mais curieusement, il est à Goma. La maladie se trouve au sud Kivu. Ce que sur la cartographie, c'est qu'il est maintenant derrière l'épidémie. C'est-à-dire, on ne serait pas étonné si demain on dit que maintenant c'est le Maniema qui est touché. Et là, le problème, c'est de comprendre tous ces cas-là, les cas de sud Kivu, les cas de Goma. On pouvait bien comprendre les gens de Goma, la maladie venait de Ituri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous prenez la même épidémie, quand c'était encore le bandundu, on nous a dit que la prévention, il ne fallait pas manger la viande des singes, ainsi de suite. L'Équateur, c'était la même chose. Mais curieusement, maintenant là, on nous parle seulement de lavage des mains, c'est comme si Ebola devenait une maladie des mains sales, où il faut seulement se laver les mains au savon et c'est tout. Non, c'est ce qui n'est pas correct, parce que maintenant, on ne parle plus de viande des singes. Sachant bien qu'il y a le parc Ibirunga là-bas, est-ce qu'on est en train de mener des études sur les singes, les bonobos et les autres, les gorilles qui sont là-bas? Est-ce qu'ils sont aussi touchés? Est-ce qu'on a pris des dispositions pour les protéger? On ne parle même pas de la consommation. Pourquoi cette fois-ci on insiste plus sur l'hygiène des mains que la nourriture? Parce que quelqu'un peut se laver les mains avec de l'eau, mais manger la viande qui est contaminée, et il sera pas protégé. Ah, donc, moi, je crois qu'il faudra, je ne sais pas pourquoi, l'épidémie des Goma, on n'insiste plus sur la nourriture ou la viande des singes, mais on n'insiste plus sur les lavages des mains. C'est ce qui est quand même curieux. C'est comme ça qu'on dit qu'on n'a pas encore la maîtrise sur la chaîne des contaminations. Si on peut me dire exactement qu'est-ce qui est à la base de la contamination, je crois qu'on pourra stopper effectivement. Parce que maintenant, là, la maladie est déjà dans le sud Kivu, mais on continue à dire non, voilà, il faut se laver les mains.
D'accord.
Pourtant,
Merci Joseph Piana de Kinshasa. Monsieur Souleymane, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je dois dire que l'hommage revient au gouvernement de la RDC dans la mesure où tous les appuis de tous les partenaires, c'est pour tout ce qui, tout ce que tout le monde fait, c'est pour vraiment pour appuyer les efforts du gouvernement. Donc le plan qui a été aussi élaboré, c'est un plan stratégique qui a été élaboré par le gouvernement pour pouvoir adresser la riposte. Donc tous les intervenants vont dans le même sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut renforcer aussi les capacités, les structures de santé, les ressources humaines et consorts, parce que d'une part, cette structure est affaiblie depuis longtemps, mais de l'autre côté aussi, Ebola est venu encore affaiblir ces structures. Parce qu'aujourd'hui, les efforts qui étaient menés pour les campagnes de rougeole, les efforts qui étaient menés pour la vaccination de routine, les efforts qui étaient menés dans les formations sanitaires, ces efforts-là ont été victimes de ce qui a été mis comme concentration d'efforts sur la riposte à Ebola. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'enseignants dans les écoles parce que tout le monde est obligé d'adresser par rapport à Ebola. On a les services de santé qui sont affectés par l'absence de ressources humaines et la déstructuration même du système. Ce qui fait que dans le plan actuel de riposte qui a été élaboré, l'ensemble de ces dimensions sont à considérer. Comment réduire, mitiger l'impact de Ebola sur les services sociaux de base? Comment permettre à ces services sociaux de base d'adresser normalement les autres problèmes? On sait aujourd'hui que dans l'Itourie, il y a eu des épidémies de rougeole. Il y a eu des campagnes de vaccination qui ont été menées. La deuxième campagne, la deuxième série de la campagne va démarrer aujourd'hui à Bounia. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un certain nombre d'interventions qui méritent d'être menées parallèlement ou en conjonction avec ce qui se met dans le contexte de la lutte contre Ebola. L'agent causal, comme on dit, c'est le virus, il se transmet. Bon, je ne voudrais pas revenir dessus parce que des voix plus autorisées que moi vont en parler. Je dois simplement dire que la transmission telle qu'on la met, on a mis beaucoup d'éléments là-dessus. Elle se fait actuellement en ville ici, le fait qu'on ait une grande concentration de population. Il faudrait bien, même si quelqu'un a consommé une viande qui est infectée, il est son cas. Mais si on arrive à gérer le cas tel qu'il est, on évite la propagation. Donc l'effort ne veut pas dire simplement qu'on est dans une seule direction, mais je pense qu'il faut concentrer sur toutes les causes, tous les facteurs favorisant à la transmission de l'information. Alors,
D'accord. Monsieur Souleymane, qu'est-ce qui doit être fait déjà? Vous avez dit il y a 30% d'enfants qui sont touchés par Ebola. Qu'est-ce qui doit être fait au niveau des familles, de la communauté, au niveau de l'État, des partenaires, de tout le monde pour réduire, sinon limiter, l'impact négatif d'Ebola sur les enfants?
Un, comme j'ai dit, il faut informer l'enfant. Celui qui peut, l'enfant qui va à l'école, il faut l'informer, il faut lui donner l'information correcte. Deuxième élément, il faut appliquer les mesures telles qu'elles sont recommandées, les mesures de prévention qui sont données telles qu'elles. C'est-à-dire promouvoir le lavage des mains, promouvoir, suivre l'enfant à travers s'il y a des signes qui se développent, les connaître, les développer, suivre l'état nutritionnel de l'enfant. Donc ces mesures de prévention doivent être développées. Pour le moment, au niveau des familles, au niveau des individus, au niveau des collectivités, on doit prendre ces dispositions. Ça, c'est le premier effort qu'il y a à faire. Le deuxième élément, c'est connaître les signes, comme on dit pour les parents. C'est-à-dire chaque fois que quelque chose pourrait arriver, toute fièvre ne peut pas être, une fièvre ne peut pas être liée à Ebola, mais quand il y a une fièvre qui se présente comme telle, il faut l'investiguer, il faut souvent prendre les dispositions à temps. Donc ce sont les principales mesures que l'on peut donner dans le contexte de l'enfant tel qu'il est au niveau de la famille. L'autre chose par rapport à la famille, c'est comme on le dit, il y a des étapes dans la vie quand on sait, par exemple, les cérémonies que nous avons, les baptêmes, les mariages, les décès, ce sont des occasions de retrouvailles de tout le monde. Donc chacun doit être responsable de sa propre prévention. Donc des dispositions qui doivent être prises à ce niveau pour que chacun se préserve et qu'on préserve en même temps la collectivité doivent être renforcées. Donc ces éléments de communication vont être importants, ces éléments de disponibiliser l'information vont être importants et que nous devons tous mettre l'accent là-dessus. Les structures de proximité existent, les CTE, les CT, la fréquentation du système de santé, que l'on puisse adresser dès que possible les premiers signes, que l'on puisse adresser aux services de santé. Ça demandera aux services de santé aussi de pouvoir renforcer sa capacité d'accueil, de réception, de prise en charge, donc des efforts sont encore menés dans ce sens.
Voilà. Alors les enfants qui sont dans les crèches, c'est seulement les enfants dont les parents sont, disons, dans les centres de transit ou centres de traitement.
Exact.
Voilà. Nous allons bientôt terminer cet entretien avec vous, Monsieur Souleymane. Alors au niveau de l'État, du gouvernement, des autres partenaires, est-ce qu'il y a encore besoin de conjuguer beaucoup plus des efforts pour réduire l'impact et limiter les impacts négatifs d'Ebola sur les enfants?
Je voudrais mentionner particulièrement les efforts qui sont menés en matière de coordination. Donc, comme un des intervenants disait tout à l'heure, en pensant qu'on court après la maladie, c'était Goma, on est revenu avant. Je voudrais mentionner que s'il y a une base qui est à Goma actuellement, il y a des sous-coordinations dans tous les foyers. Vous avez une sous-coordination à Boutembo, à Beni, à Bounia, vous avez une sous-coordination à Manguina, vous avez partout où il y a eu des foyers importants, on a mis en place une sous-coordination qui met en place, parce que la réponse à Ebola est multisectorielle. Donc on a mis ensemble l'ensemble des commissions et sous-commissions, de gens qui pourraient intervenir pour que l'offre de paquets soit complète, dès qu'un cas se présente, qu'on puisse gérer correctement. Donc cet effort est mené par le gouvernement pour être à proximité des foyers. Là où il y a un foyer, on essaie d'approcher à ce point. Quand il y a eu le cas de Hariwara, tout le monde est passé, il y a eu des efforts qui ont été menés pour concentrer, et vous voyez qu'aujourd'hui, ces efforts ont porté. Aujourd'hui, on parle des cas de Goma, c'est la même structure qui est faite. Donc, la proximité, je dois le dire au crédit, vraiment, c'est d'être au plus près de l'intervention. Chaque fois que l'on notifie un cas, vous verrez que dans les 24 heures, il y a une intervention, en tout cas maximale, qui est là. Mais l'état de préparation initiale est là. L'animation communautaire, les cellules d'animation communautaire, les relais communautaires dont vous avez parlé ont un rôle clé à jouer. On doit s'assurer que ces structures-là sont préparées, ont l'information, on puisse la transmettre, puisse aider à la détection et au suivi des cas, au listage des contacts, à la fréquentation des vaccinations, puisse pouvoir aider les gens à pouvoir aller dans le centre lorsque les problèmes se présentent.
On va bientôt terminer avec Valérien qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Valérien, rapidement, quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Jody. Je voulais poser cette question à l'invité. Alors, les enfants-là qui sont encadrés par l'UNICEF, ils vont aller à l'école ou bien il y aura une école qui sera installée là-bas pour encadrer ces enfants?
Merci, monsieur Souleyman.
Question très intéressante. On essaie, et je dois dire qu'il y a eu un exemple d'un enfant, je dirais un enfant parce qu'il était élève, qui devait passer son examen et qui était dans un centre de traitement Ebola. On l'a aidé à pouvoir faire son examen à partir de ce centre de traitement Ebola et il a réussi. Donc ça veut dire que tous les efforts sont faits pour ne pas interrompre le circuit éducatif de l'enfant. Et ceux qui sont dans les crèches sont généralement celles de moins de 5 ans qui sont en âge préscolaire. Et ces enfants-là, la plupart du temps, on leur donne, comme on dit, des jouets personnalisés. On leur donne un ensemble de jouets. On essaie de les occuper comme s'ils étaient vraiment dans les préscolaires normaux. Voilà. Donc, vraiment, des efforts sont faits dans ce domaine.
Bien, merci, M. Souleyman Diallo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la lutte contre Ebola à l'UNICEF.
Si vous permettez, je dois dire que ce n'est pas l'UNICEF seul qui intervient. C'est l'UNICEF qui appuie des interventions qui sont menées par beaucoup de partenaires.
Beaucoup de partenaires.
Donc, je dois vraiment faire l'éloge de tous les partenaires qui interviennent dans cette riposte parce que c'est un défi qui est à tous.